les pseudo-prédicateurs ou pseudo-évangélistes, j'espère ne pas en faire partie, mais ils étaient déjà nombreux. Et sous prétexte de parler de Jésus-Christ, ils apportaient des enseignements qui les servaient avant tout eux-mêmes. Alors parfois par appât du gain, ou bien pour se faire une renommée, ou peut-être pour abuser d'une capacité à influencer les gens. Et on pourrait dire rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui encore, les gourous, les escrocs ou les illuminés qui se prétendent annonciateurs de l'Évangile sont malheureusement assez nombreux. Alors à l'époque de l'apôtre Paul, le contexte bien sûr était très différent. Mais déjà, et sans doute en voyant la progression si rapide de l'Église chrétienne dans les premières décennies du 1er siècle, certains avaient repéré le filon. Alors on peut supposer que ce n'était pas toujours l'argent qui était leur motivation. Il est vrai que le fait de prêcher l'Évangile n'était pas forcément très lucratif. C'était, cela dit, plutôt une marque de prestige, peut-être, dans certains cercles, ou bien une façon d'exercer une influence. Or, il y a des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de diffuser au maximum leurs réflexions douteuses. Et pour évoquer ses adversaires, Paul utilisera, vers la fin de sa seconde lettre aux Corinthiens, une expression très ironique. Il parle des super-apôtres. Et devant le risque que certains chrétiens puissent se laisser entraîner par ces dérives, eh bien, l'apôtre Paul a tenu à mettre les points sur les i et à rappeler ce que ça veut réellement dire d'être apôtre de Jésus-Christ. Et ce matin, alors que nous allons continuer à parcourir cette deuxième lettre aux Corinthiens, nous arrivons à l'un des textes clés à ce sujet, l'un de ces textes où Paul passe du temps pour défendre et mieux expliquer son ministère. Et je vous invite à lire au chapitre 2 à partir du verset 14, 2 Corinthiens 2, verset 14, dans les Bibles bleues, c'est à la page 1128, et nous irons jusqu'à la fin du chapitre 3. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous entraîne toujours dans son triomphe, dans le Christ, et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut, comme parmi ceux qui vont à leur perte. Pour les uns, une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Et qui est capable d'une telle mission ? C'est que nous ne sommes pas comme tant d'autres qui font de la parole de Dieu leur petit commerce. C'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, devant Dieu et dans le Christ que nous parlons. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes ? Ou bien aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous ou encore de vous ? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous. Il est manifeste que vous êtes une lettre de Christ confiée à notre ministère, une lettre écrite, non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non pas sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur des cœurs. Telle est la confiance que par le Christ nous avons en Dieu. Non pas que de nous-mêmes nous soyons capables de considérer quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. C'est lui aussi qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, s'est trouvé entouré de gloire, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère, de son visage, comment le ministère de l'Esprit ne le sera-t-il pas à plus forte raison ? Si le ministère de la condamnation a eu de la gloire, à bien plus forte raison le ministère de la justice abonde-t-il en gloire ? Et sous ce rapport, ce qui a été glorifié n'a pas été glorifié à cause de cette gloire plus éminente. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, à bien plus forte raison, ce qui demeure est-il entouré de gloire. Ayant donc une telle espérance, nous montrons d'autant plus d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne voient pas la fin de ce qui était passager. Mais leur intelligence est devenue obtuse. En effet, jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture publique de l'ancienne alliance, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé, parce qu'il ne disparaît que dans le Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image, de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur, qui est l'Esprit. En examinant ce texte, nous allons d'abord essayer de comprendre ce que l'apôtre Paul nous dit de son ministère en tant qu'apôtre. Et à ce sujet, je vous propose deux axes de réflexion. D'abord, un ministère qui met en évidence le triomphe du Christ. Un ministère qui met en évidence le triomphe du Christ. Et puis, dans un deuxième temps, un ministère qui met en évidence l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit. Un ministère qui met en évidence l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit. Et puis, en conclusion, nous essaierons de tirer des conclusions, justement, pour notre ministère en tant qu'Église locale. Tout d'abord, donc, un ministère qui met en évidence le triomphe de Jésus-Christ. On a vu depuis le début de cette lettre que Paul l'écrit avec des sentiments mitigés. Alors, d'un côté, il est soulagé. Il a reçu des nouvelles globalement bonnes de cette église à problème, l'église de Corinthe, qui lui causait tant de soucis. Il apprend, par son collaborateur Tite, qui allait leur rendre visite, il apprend que les Corinthiens, dans leur majorité, ils tiennent ferme dans l'enseignement à propos de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le cas de tous. Certains, semble-t-il, sont encore tentés par divers faux enseignements, et notamment ceux que Paul, plus loin dans la lettre, appellera les super-apôtres, et qui menacent d'influencer cette jeune église. D'autres continuent à critiquer Paul, à remettre en question ses motivations, voire le bien fondé même de son ministère. Et c'est cette double réalité, d'un côté des encouragements, d'autre côté des difficultés, qui explique que cette lettre nous surprend parfois dans la manière dont elle alterne entre des sections positives, où Paul se réjouit de ce que vivent les Corinthiens, et puis d'autres où il prend un ton plus sévère et il tient à rétablir la réalité, la vérité, face à certaines accusations. À partir du verset 14, donc le texte que nous avons lu, Paul poursuit cette défense de son ministère qu'il a déjà commencé au chapitre précédent. Et la première chose qu'on doit relever dans ce texte, et qui le rend un peu difficile, il faut reconnaître, c'est le nombre d'images que l'apôtre utilise. La première, elle nous est donnée tout au début, verset 14. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous entraîne toujours dans son triomphe dans le Christ », écrit Paul. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Alors, les commentateurs ont beaucoup écrit à ce sujet. Rappelons qu'au moment où Paul écrit cette lettre, nous sommes dans l'Empire romain. Paul lui-même, est, bien que d'origine juive, est citoyen romain. Et le verbe qu'il utilise au verset 14, et qu'on traduit par « entraîner dans son triomphe » ici, c'est un verbe qui avait un sens bien précis. Il désignait une sorte de parade dans laquelle les chefs militaires qui revenaient triomphants de la bataille avaient derrière eux un cortège de prisonniers enchaînés. Donc c'était une façon de parader en montrant son triomphe, en montrant sa victoire. Donc on imagine un peu le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, mais avec des ennemis enchaînés qui sont obligés de défiler derrière les généraux. Bon, les temps et les habitudes ont changé, donc ça ne se fait pas trop aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul peut bien vouloir dire par cette image ? Grâce soit rendue à Dieu qui nous entraîne toujours dans son triomphe. Alors, quand l'apôtre dit « nous » ici, il semble qu'il parle en premier lieu de lui-même, comme d'ailleurs aujourd'hui, lorsqu'on écrit un texte, un peu un essai ou un texte littéraire, on utilise parfois ce « nous ». Mais sans doute s'associe-t-il également aux autres apôtres engagés dans la même mission que lui pour Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que Paul se décrit ici comme un de ces prisonniers captifs entraînés dans le triomphe de Jésus-Christ ? Se pourrait-il qu'il se présente comme un ennemi vaincu ? Alors, pour certains commentateurs, cette façon de comprendre le texte est inimaginable. Ils disent que Paul, justement, est en train de convaincre ses lecteurs que Dieu appuie et soutient son ministère, et donc pourquoi utiliserait-il une telle image qui renvoie plutôt à une humiliation publique ? Et c'est pour ça qu'un certain nombre de traductions de la Bible préfèrent traduire « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ ». Le problème, c'est que ça implique que l'on donne à ce fameux verbe mentionné tout à l'heure un sens qui est inconnu par ailleurs. On suppose que Paul a un peu déformé le sens d'un mot. Et si l'apôtre Paul avait précisément voulu se présenter comme un captif du Christ, lui qui a été comme dompté par le Seigneur sur le chemin de Damas, lui qui se décrit volontiers par ailleurs comme esclave du Christ, qui a commencé cette lettre en affirmant que c'est aussi par les souffrances vécues dans son ministère en tant qu'apôtre que la bonne nouvelle est proclamée. N'a-t-il pas voulu justement se présenter comme un homme qui a été capturé par Dieu, arraché des ténèbres vers la lumière et qui, par conséquent, n'est vraiment pas là pour parler de lui-même, par opposition à ses super apôtres, mais il est vraiment là pour parler de son Seigneur. Et cette interprétation semble se confirmer lorsqu'on lit la suite de la phrase. Et l'autre image que Paul utilise, « Dieu nous entraîne toujours dans son triomphe, dans le Christ, écrit-il, et par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Voilà encore une image surprenante. Le plus probable est que Paul fait référence ici aux offrandes d'animaux et de végétaux qui étaient présentées selon la loi de Moïse et qui avaient entre autres pour but de répandre une bonne odeur qui exprimait un hommage à Dieu. Bien sûr que c'était un symbole, celui d'une offrande qui plaît à Dieu, qui est agréée de lui. Dieu n'a jamais eu, rappelons-le, besoin des offrandes des hommes. Mais c'était une manière pour les croyants de l'époque de reconnaître que Dieu est le Seigneur, le propriétaire de toute chose, qu'il a un droit sur toute chose. Et on manifeste cela en lui donnant, entre guillemets, ce qui lui appartient déjà. Or, Jésus-Christ, bien d'autres textes nous le disent, est venu fonder une nouvelle ère dans l'histoire du salut, des interventions de Dieu dans le monde. Après le temps des symboles, le temps de la réalité est venu. Dieu appelle ceux qui l'adorent aujourd'hui à l'adorer en esprit et en vérité, nous dit Jésus, et non plus selon des rituels traditionnels. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul, toujours lui, écrit que adorer Dieu, en fait, lorsqu'on est disciple de Jésus-Christ, c'est lui offrir en sacrifice sa vie entière, c'est se donner soi-même et non plus un symbole. C'est offrir sa vie à Dieu. Dans notre texte, il semble que Paul a précisément ce type d'image à l'esprit. En se décrivant comme prisonnier captif de Jésus-Christ, et juste après comme un sacrifice offert à Dieu, Paul nous dit que son ministère est une offrande, un acte de soumission qui attire exclusivement l'attention, non pas sur lui-même, mais sur Jésus-Christ, et qui diffuse la connaissance de Jésus. Christ a capturé Paul, non pas par la violence, mais par la transformation de son cœur. Et par conséquent, la vie de l'apôtre Paul ne lui appartient plus. Son ministère est tout entier consacré à proclamer Jésus-Christ. Et du coup, et c'est là qu'on voit ce que Paul veut dire par tout cela dans son contexte, il n'a pas de temps à perdre dans des palabres pour savoir qui a le plus d'influence, qui est le meilleur orateur, qui a avec lui des lettres de recommandation, comme on verra tout à l'heure. Sa seule préoccupation, c'est d'être le canal par lequel Jésus-Christ, ressuscité et régnant dans la gloire, répand la bonne nouvelle, cet appel adressé aux hommes pour qu'ils viennent à lui. Et Paul rappelle cet enjeu au verset 15. « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut, comme parmi ceux qui vont à leur perte. Pour les uns, une odeur de mort qui mène à la mort, pour les autres, une odeur de vie qui mène à la vie. » Autrement dit, ce ministère qui diffuse la connaissance de Dieu, et Paul joue encore avec cette image de l'odeur, ce ministère est reçu comme un message de vie, comme une bonne nouvelle par ceux qui sont prêts à l'accueillir et à être transformés par cette bonne nouvelle. Mais elle est reçue comme un message mortifère, désagréable, par tous ceux qui préfèrent vivre pour eux-mêmes que pour Dieu. Et c'est vrai, lorsque l'homme tient à rester son propre Dieu, l'évangile, le véritable évangile du Christ, résonne à ses oreilles comme une très mauvaise nouvelle qui menace de détruire sa fierté et sa prétention à l'autonomie loin de Dieu. Une mauvaise nouvelle, entre guillemets, qui le place devant la réalité de son péché et son besoin de connaître le Créateur. Pour que l'évangile apparaisse comme la magnifique bonne nouvelle qu'il est, il faut cette prise de conscience que c'est en Dieu et non pas en nous-mêmes que se trouve le sens de la vie. Et pour Paul, à en croire le verset 16, il y a là un enjeu de vie et de mort. Et c'est pour ça qu'il présente son ministère comme un ministère tout entier consacré à proclamer par sa vie, par ses paroles, ce triomphe de Jésus-Christ. Un ministère dont l'enjeu, c'est une question de vie ou de mort éternelle. Et au verset 16, il s'exclame « Qui est capable d'une telle mission ?» Et il semble que, contrairement à ce qu'on pense spontanément, sa réponse implicite, ce n'est pas « Mais personne, bien sûr !» Mais c'est plutôt ce qu'il nous dit au verset 17. « Celui qui est capable d'une telle mission, c'est celui qui a compris la nature authentique du ministère. Celui qui parle, non pas pour se glorifier soi-même, mais de la part de Dieu, devant Dieu et dans le Christ. » Verset 17. Et qu'on ne se méprenne pas, Paul ne pense pas être capable par lui-même de cette mission. Il souligne au verset 5 que sa capacité à remplir sa mission, elle vient exclusivement de Dieu. Donc un ministère authentique, c'est un ministère, on peut en tirer des conclusions plus larges, dans lequel tout enseignant de la parole, mais même plus largement tout chrétien, s'efface pour que sa vie, par sa vie comme par ses paroles, ce soit Christ qui soit révélé, qui soit annoncé, et non pas soi-même. Et bien sûr, nous pouvons nous poser la question, qu'en est-il pour nous, à titre individuel, et peut-être surtout à une époque comme aujourd'hui, où nous sommes constamment encouragés à nous vendre, à présenter l'image la plus flatteuse possible de soi. Est-ce que nous sommes prêts à ce changement de cap complètement à contre-courant, par lequel c'est l'image de Jésus-Christ qui nous préoccupe en premier lieu? C'est douloureux, ce changement de cap. Est-ce que je suis prêt même à me poser la question, face à toute démarche que j'entreprends, quelle image est-ce que je vais donner, non pas de moi-même, mais de celui que je reconnais comme Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Celui dont je dis qu'il vit en moi, ça veut dire quelque chose. Et qu'en est-il dans notre Église? Est-ce que nous répandons la bonne odeur de Christ? On n'utiliserait peut-être pas cette image. Mais est-ce que non seulement dans notre enseignement, mais aussi dans notre manière de vivre ensemble, notre manière de servir Dieu, l'esprit dans lequel nous vivons cette vie communautaire, est-ce que nous manifestons que Jésus-Christ a pris le contrôle de notre vie d'Église et que nous sommes dans un sens ses captifs, qu'il est véritablement notre Seigneur? Alors ce premier accent dans notre texte, il pourrait nous déstabiliser, nous effrayer un peu. On n'est pas habitué à se considérer comme des captifs de Christ, on devrait peut-être y penser un peu plus. Mais dans la suite du texte, Paul présente, paradoxalement, son ministère comme étant porteur de la plus grande des libertés. Et c'est mon second point, un ministère qui met en évidence l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit. Paul commence ce chapitre 3 en ironisant sur ces lettres de recommandation dont les super apôtres étaient porteurs. Ils arrivaient avec une lettre qui disait qu'il fallait les accueillir et les écouter, lettre écrite par on ne sait trop qui. Et l'apôtre rappelle que lui n'a pas besoin de lettre de recommandation, parce que, verset 2, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous. Autrement dit, pour l'apôtre Paul, les faits parlent d'eux-mêmes. L'église de Corinthe a vu le jour suite à la prédication, à sa prédication et à celle de ses collaborateurs. Tout ce que les Corinthiens ont appris à propos de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ leur est venu des apôtres. Ce serait quand même un comble qu'ils doivent maintenant venir avec des lettres de recommandation. La comparaison est peut-être un peu osée, mais j'imagine mal quelqu'un ici demandant à notre frère Paul Appéré de se munir d'une lettre de recommandation avant de pouvoir prêcher. Paul, l'apôtre, aurait pu en rester là, mais une fois de plus, il va saisir l'occasion que lui procure une critique superficielle de son comportement, de son ministère, et il va en profiter pour parler de choses beaucoup plus profondes. En fait, il avait déjà fait ça au chapitre précédent, versets 15 à 22, on avait vu cela. Paul doit se justifier sur son itinéraire de voyage, mais il en profite pour parler de la fermeté de la parole et des promesses de Dieu. Il fallait le faire, hein, passer en quelques phrases d'une explication de son planning à l'une des plus belles affirmations de la Bible sur la fidélité de Dieu. L'apôtre Paul l'a fait. Peut-être que nous devrions d'ailleurs, soit dit en passant, nous inspirer de son exemple, devant les petites tensions, les incompréhensions qui peuvent exister entre nous, entre frères et sœurs, il serait judicieux d'en revenir toujours à Dieu et à la bonne nouvelle, d'élargir toujours toutes ces choses, pour en revenir à ce qui est, après tout, le socle commun de toutes nos vies. C'est le moyen le plus sûr de dépasser nos différences et nos conflits. Mais revenons au texte. Paul saisit l'occasion que lui donne cette question des lettres de recommandation pour parler une fois de plus de ce qu'est un ministère d'apôtre authentique. La première chose que Paul veut souligner, c'est ce qui fait la valeur d'un ministère aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ce que les hommes en disent, mais c'est le résultat spirituel de ce ministère. Verset 3, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Jésus disait déjà, on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est vrai que si on voit des pommes qui poussent sur un pommier, on ne va pas faire un test ADN pour vérifier que c'est un pommier. On reconnaît un arbre à ses fruits. Mais à Corinthe, des hommes et des femmes sont venus à Christ, ils ont déclaré publiquement leur foi, ils ont été baptisés, ils se sont rassemblés pour fonder cette église locale. La mission de Jésus-Christ est en marche grâce au ministère de Paul et des autres apôtres. Et donc pour Paul, le fait que l'évangile soit régulièrement proclamé, enseigné à Corinthe, que des hommes et des femmes continuent à se tourner vers Christ, malgré tous les problèmes qu'ils ont par ailleurs, eh bien c'est le signe que Dieu est à l'œuvre dans son ministère. La lettre de recommandation, elle est là. Mais l'apôtre va plus loin, avec beaucoup de finesse. Il va rebondir sur un mot, lettre. Et il va établir, en partant de ce mot, un contraste entre l'ancienne alliance fondée sur la loi de Moïse, donc sur la lettre, et la nouvelle alliance fondée sur l'œuvre du Saint-Esprit. Il semble vraiment que ce soit une digression que l'apôtre Paul fait en partant de ce mot-là. Les versets 3 à 18 sont denses, il faut l'avouer, et on ne va pas essayer de tout analyser en détail, je vous rassure, mais juste de donner une vue d'ensemble. Souvenons-nous que le souci de Paul dans cette section, c'est de rappeler qu'un vrai ministère d'apôtre, c'est de rappeler ce que c'est qu'un vrai ministère d'apôtre par rapport à ces super apôtres que les Corinthiens étaient tentés d'écouter. Eh bien, à partir du chapitre 3, verset 3, Paul va expliquer son rôle et celui des autres apôtres dans la révélation de Dieu. Il se présente avec les autres apôtres comme serviteur d'une nouvelle alliance, verset 6. Aujourd'hui, dit Paul, Dieu se révèle, non pas au moyen d'une loi révélée aux hommes, mais en donnant une vie nouvelle aux hommes par son Saint-Esprit. En envoyant Jésus-Christ dans le monde, Dieu a inauguré une nouvelle ère dans laquelle il appelle des hommes et des femmes de toutes les nations à placer leur foi en Jésus-Christ et ainsi à connaître une vie entièrement renouvelée, marquée par une magnifique liberté, marquée par une relation directe, immédiate avec Dieu. Là où est l'Esprit du Seigneur, verset 17, là est la liberté. Autrefois, Dieu s'était adressé aux hommes par le biais d'une loi, juste et bonne en elle-même, mais qui ne faisait que renvoyer l'homme encore et encore à sa condition de pécheur, à cause de son incapacité à lui obéir. C'est pour ça que Paul parle à propos de cette loi, à propos de l'ancienne alliance, d'un ministère de condamnation ou de mort, verset 9 et précédemment. Et pourtant, souligne Paul, au verset 7 à 11, cette loi, elle a été confiée à Israël par Moïse dans un cadre glorieux, avec éclat à la suite d'une rencontre mystérieuse entre Moïse et l'Éternel sur le mont Sinaï. Lorsqu'il s'est révélé à Israël dans le désert, Dieu l'a fait de manière glorieuse et solennelle. Et pourtant, ajoute Paul, le ministère des apôtres de Jésus-Christ est supérieur à celui de Moïse. Parce que par la bonne nouvelle de Christ, proclamée par les apôtres, le Dieu qui avait donné sa loi à Israël par Moïse sur des tablettes de pierre, eh bien maintenant il est venu habiter chaque croyant, il est venu se faire connaître personnellement d'eux par son esprit. Ce Dieu dont la simple évocation faisait trembler les Israélites nous invite à une relation directe, personnelle, constante, libre dans sa présence. Non pas pour récompenser l'obéissance à la loi de Moïse ou à une quelconque loi, mais par la foi placée dans la grâce apportée par Christ. Et Dieu nous invite à faire l'expérience de sa présence non plus de manière passagère et symbolique, comme ce fut le cas lors du don de la loi au Sinaï, mais verset 10-11, de façon permanente, de façon infiniment plus glorieuse. Et ça, c'est quelque chose que les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé auparavant. Jérémie 31, verset 31 et suivant. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et avec la communauté de Juda une alliance nouvelle. » Même expression que Paul utilise. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Autrement dit, elle ne sera pas comme l'alliance conclue par Moïse. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Ça vous rappelle quelque chose, ce vocabulaire, début du chapitre 3. Une lettre écrite par Dieu dans le cœur. Joël 3:1, prophète Joël. Après cela, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Et un peu plus loin, au verset 5, alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Cette bonne nouvelle de Dieu, elle est déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que Paul, à la fin du chapitre 3, constate avec tristesse que bon nombre de ses compatriotes israélites passent à côté de l'accomplissement de ses promesses en Christ, de ce qui permet d'éclairer toutes les Écritures. Par l'évangile que Paul et les autres apôtres annoncent, le Dieu de l'univers se révèle et il se fait connaître d'hommes et de femmes qui pourtant n'ont aucun mérite à faire valoir devant lui. Et il ne se contente pas de les pardonner. Dieu ne fait pas. On a tendance parfois à penser que voilà, Dieu nous pardonne et puis c'est bon. Mais il ne se contente pas de nous pardonner. Il vient faire sa demeure en nous. Il nous invite à vivre pour toujours dans son intimité. Alors que la religion humaine renvoie toujours l'homme à son insuffisance, l'Évangile nous conduit toujours à lever les yeux vers celui que Dieu nous a envoyé pour être notre sauveur et à recevoir comme un cadeau son œuvre de réconciliation. Pourquoi est-ce que Paul a ouvert toute cette parenthèse? Pourquoi est-ce qu'il parle de ces considérations assez théologiques alors qu'il est encore en train de répondre aux Corinthiens qui le remettent en question et qui se posent des questions sur ses motivations? Eh bien, Paul écrit tout cela parce qu'il voudrait que les Corinthiens arrêtent un peu leurs bêtises. Il serait dramatique que pour des raisons futiles, parce qu'ils trouvent Paul moins éloquent que d'autres, parce qu'ils ont été vexés par son changement d'itinéraire, etc., qu'à cause de cela, certains d'eux passent à côté de la révélation de la grâce de Dieu en Christ. C'est un peu comme si quelqu'un était en train de se noyer et refusait l'aide d'un sauveteur parce qu'il n'aime pas la couleur de sa combinaison. Ou comme si, alors qu'un homme crie des instructions à quelqu'un pour qu'il s'enfuit d'un bâtiment en feu, la personne dans le bâtiment lui dise « j'aime pas votre accent ». Paul n'est pas simplement un enseignant parmi d'autres qui voudrait gagner les Corinthiens à sa cause. Il fait partie des hommes que Jésus-Christ a personnellement envoyés par la puissance du Saint-Esprit pour reconquérir l'humanité perdue par la proclamation du pardon de Dieu. Et pour nous aussi, nous devons nous assurer que ce qui nous attire à l'Église, ce n'est pas simplement même de très bonnes choses, comme la possibilité de revoir des amis, de participer à telle activité, de chanter, même d'entendre une prédication ou une étude biblique. Si nous sommes chrétiens, nous sommes ici parce que, comme l'écrivait Calvin, Dieu a un jour dompté notre cœur rebelle. Notre vie ne nous appartient plus, elle est tout entière sa propriété. Et notre vocation, dans les petites comme dans les grandes choses de la vie, c'est de montrer Jésus-Christ à notre famille, à nos amis, à nos collègues, à nos frères et sœurs dans la foi. Nous avons besoin de voir, entre guillemets, Jésus-Christ encore et encore à l'œuvre dans notre communauté. Et lorsque nous nous réunissons, c'est avant tout parce que nous voulons nous réjouir ensemble de la vie que Dieu nous a donnée pour toujours, de cette liberté magnifique qu'il nous donne par l'Esprit. Nous voulons en profiter ensemble, nous voulons nous encourager à suivre Jésus-Christ. Et si vous êtes là ce matin et que vous êtes encore à la lisière de la foi ou peut-être tout à fait en dehors, sachez bien que nous ne serons pas toujours à la hauteur de ce que nous vivons et affirmons. Loin de là. Mais notre prière, c'est que dans sa grâce, Dieu permette que son Fils soit connu, qu'il soit annoncé et célébré dans notre communauté. Parce que lui, il ne décevra jamais. Amen.